Le dernier Négus, ou roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, a été renversé en 1974 par le régime marxiste. Il y eut d'autres Négus dans ce pays africain jamais colonisé et l'un des plus vieux pays du monde. Nous allons évoquer l'un d'entre eux, Théodros II, associé à la naissance de l'Éthiopie moderne. Nicolas Loumbiares, historien et directeur des éditions Le Marchand de Tyr, a publié trois récits rédigés au XIXe siècle sur ce Négus. Ce livre, qui s'intitule « Voyage en Éthiopie au temps du Négus Théodros II », est un recueil de livres de voyage de trois personnes qui se sont rendues en Éthiopie. Un consul français, envoyé par Napoléon III, un anglais, envoyé par la reine Victoria, et enfin un révérend orthodoxe arménien, venu entre autres libérer l'anglais, fait prisonnier par ce Négus, charismatique, mais aussi excessif. Littérature et voyage en Éthiopie du 19e siècle avec Nicolas Loumbiares.
Le voyage en Éthiopie au temps du Négus Théodros II. Et c'est en effet un recueil de livres de voyage du 19e siècle, de gens très différents qui se rendent en Éthiopie pour voir un Négus extrêmement charismatique, vraiment le chantre de la liberté éthiopienne, seul pays d'Afrique à n'en avoir jamais été colonisé. Ils racontent leur voyage, leurs péripéties, leurs malheurs, peu de bonheur en fait, hein, beaucoup de malheur, puisque vraiment Théodros est très charismatique et il peut être très méchant quand il veut.
Il y a trois personnes qui vont rapporter des récits. Vous avez trouvé que ces trois récits ou alors il y en avait d'autres et c'est une sélection?
Il y en avait d'autres, mais on a fait une sélection tout simplement parce que les trois personnes qui sont totalement différentes étaient assez différentes pour bien présenter les choses et pour bien montrer la personnalité de Théodros. On a eu un petit peu l'œil d'historien sur ce Négus. Et on a vu tout simplement que les trois personnes le présentaient à peu près de la même manière. C'était donc aussi intéressant de voir simplement trois personnes. Il y a d'autres auteurs qui pouvaient le décrire, qui ont pu le décrire, mais ils rejoignaient forcément une des trois personnes déjà dans le livre. Donc trois personnes, oui, c'est un choix.
Parmi ces trois personnes, ils n'ont pas les mêmes qualités. Racontez-nous, hein, parce qu'ils sont complètement différents. Non seulement c'est pas les mêmes cultures, et puis c'est pas le même statut.
Dans un premier temps, on a choisi de montrer un consul français, quelqu'un qui allait en Éthiopie, envoyé par l'empereur Napoléon III. Donc nous avons jugé bon de montrer un petit peu ce que lui pensait de l'Éthiopie, quelle pouvait être la pensée française de l'époque par rapport à un pays africain, par rapport à un empereur africain. On a été vraiment très instruits de ce que ça pouvait être. C'est un homme qui part en ambassade, c'est un homme qui va être extrêmement précis quant au décompte de ce qu'il est possible de faire en Éthiopie ou pas. C'est un consul, il n'y a pas de souci. Le deuxième, lui, est un prisonnier anglais, donc il a vraiment une personnalité totalement différente. Alors lui aussi arrive dans les bagages d'un consul envoyé par la reine Victoria, mais lui, il va raconter sa captivité. Donc dès le départ, l'a priori est forcément négatif. Il va traduire son sentiment. Son sentiment est souvent son écœurement, souvent sa lassitude. Il va vraiment souffrir dans sa chair et dans son âme de ce passage en Éthiopie. Il va décrire le Négus, il va décrire son voyage, il va décrire ses péripéties, il va tout décrire, mais avec un sentiment beaucoup plus anglais, déjà dans un premier temps, tout change. Donc vraiment, ce deuxième auteur est charismatique, il illustre extrêmement bien la pensée anglaise du temps.
Comment il s'est retrouvé prisonnier d'ailleurs?
En fait, il s'est retrouvé prisonnier tout simplement parce que Théodros avait besoin d'otages pour manœuvrer politiquement un petit peu, pour se donner l'illusion d'être légal des nations européennes.
Mais par ailleurs, on précise donc que l'Éthiopie, à ce moment-là, n'était pas du tout envahie.
L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Et elle le doit vraiment beaucoup à ce Négus Théodros II. Il est très 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 connu et reconnu en Éthiopie, même si ce n'était pas un empereur extrêmement clément, y compris avec son peuple. C'était un homme qui pouvait avoir des crises de fureur destructrices. C'était un homme qui n'hésitait pas à massacrer son peuple. C'était un homme qui n'a pas hésité à rétablir l'esclavage. C'était un homme qui préféré vendre son âme au diable plutôt que de se laisser, on va dire, un tout petit peu bafouer. Oui, là, vraiment, Théodros, c'est vraiment le point de départ d'une certaine idée de l'Éthiopie, qui sera achevée, bien sûr, par Haïlé Sélassié à Genève lors de son fameux discours.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Alors, on a parlé donc du français missionné par l'empereur. On a parlé du prisonnier anglais qui est arrivé dans les bagages des Anglais et qui était un otage. La troisième personne, son récit, qui est-il ?
Il s'agit du révérend père Timotheos, Timothée si vous voulez, qui est arrivé avec son évêque Isaïe, évêque de Jérusalem, évêque orthodoxe arménien de Jérusalem. Ils ont été mandatés là par la reine Victoria dans le but de libérer les otages dont le docteur anglais faisait partie. Alors eux, il leur arrive beaucoup de choses. Hein. Ce sont des gens à qui il arrive énormément de choses, énormément de péripéties, très très peu de bonnes choses, visiblement. Ils râlent sans arrêt, forcément. Ce sont des prêtres, hein. Ils ont une idée autre de la pensée éthiopienne. Ce sont des gens qui jugent sévèrement l'Éthiopie, outre bon, bien sûr les péripéties qu'ils racontent, ils vont juger le caractère éthiopien d'une façon très sévère. Eux ne vont jamais voir le négus, ils ne pourront que l'imaginer, ils vont entendre toutes les légendes, ils vont pouvoir être en contact des ennemis de son aigus, qui vont lui raconter toutes les légendes qui courent, qui vont lui décrire quelqu'un, mais ils ne le verront jamais. Et ils vont repartir eux aussi extrêmement marqués dans leur chair et dans leur âme par ce pays indescriptible et par cet empereur indescriptible lui aussi.
Ils sont là-bas, ce sont des prêtres. Ils se disent quoi ? Est-ce que l'Éthiopie peut être évangélisée ?
Il y a un petit peu cet aspect en effet. Bien que l'Éthiopie soit chrétienne à cette époque, elle soit déjà chrétienne, on parle d'ailleurs, tous les auteurs parlent d'un certain Abouna Salama, qui est un prêtre copte, qui est le grand prêtre. C'est lui le maître du culte éthiopien. Ça va bien sûr amener quelques batailles de lutte d'influence entre l'orthodoxie, le catholicisme, et bien sûr le terme de copte, qui est une religion égyptienne plutôt. Donc l'empereur va même en jouer beaucoup politiquement pour pouvoir donner certains avantages à certains, d'autres à d'autres. Il va beaucoup en jouer. L'Éthiopie est chrétienne. On voit que le Négus n'est pas quelqu'un de très tolérant. C'est quelqu'un qui ne veut pas de la religion musulmane, qui est présente. Donc il va donner le pouvoir à la religion chrétienne, mais toujours en gardant ce bras armé qui fait si bien sa renommée. Alors, Nicolas Lumbiares, pourquoi avoir voulu rassembler ces textes ? On précise que l'édition est seulement en français, donc destinée à un public francophone. Alors, pourquoi ces textes du 19e siècle, là, en plein 21e siècle, et concernant l'Éthiopie ? Au départ, nous, à la maison d'édition, nous sommes tous historiens. Nous avons pensé que faire quelque chose sur l'histoire, un peu historique, serait intéressant. Mais nous avons aussi pensé que des histoires sur un pays réellement méconnu pourraient être très intéressantes, parce que ça éclaire un lecteur sur un pays qui n'a pas été colonisé. C'est-à-dire, c'est de l'anti-colonisation. Nous avons voulu montrer ça, et à travers des textes, nous aurions pu faire un travail purement historique, donner quelque chose qui aurait été un peu fade. Nous avons préféré montrer au lecteur ce que c'est que l'idée de la colonisation, ce que c'est que l'idée de la colonisation ratée, ce que c'est que l'idée, en fait, de l'Afrique pour des gens qui sont occidentaux, pour des nations européennes, ce que c'est que l'Afrique quand c'est la débâcle. Aussi pour eux.
L'Éthiopie, c'est le seul pays donc qui n'a pas été colonisé. Alors justement, qu'est-ce que ça change exactement par rapport aux autres pays ? Qu'est-ce qui reste de plus en Éthiopie ? Est-ce qu'il y a des choses visibles du point de vue de la culture, du point de vue de la langue ?
Il y a beaucoup de choses visibles. D'ailleurs, l'Éthiopie, bien sûr, a comme langue l'amharique. C'est unique en Afrique. L'Éthiopie a toujours ce sentiment d'être un peuple libre. L'Éthiopie, c'est un autre monde, en fait. Ça lui a donné l'occasion de garder une culture strictement éthiopienne.
Redonnons les références précises de cet ouvrage, Voyage en Éthiopie au temps du Négus Théodros II, aux éditions Le Marchand de Tyr. Nicolas Lumbiares vous propose de le contacter par email tyrbooks@orange.fr.
Come for good lads, I'll ask.